On va revenir maintenant à la guerre au Moyen-Orient, 88e jour. On va retrouver Antoine Hollard en direct à Washington pour BFM TV. Toute la question est de savoir si les dernières frappes risquent de faire capoter les discussions, Antoine.
Oui, exactement. La question se pose après ces séries de frappes menées par les États-Unis hier soir. Une première série d'abord contre deux embarcations iraniennes, des vedettes rapides, des gardiens de la Révolution. Elles ont été ciblées, nous dit le Pentagone, parce que ces navires s'apprêtaient à déposer des mines dans le détroit d'Ormuz. Et puis, deuxième série de frappes, cette fois contre des batteries de missiles situées du côté du port de Bandar Abbas, c'est-à-dire sur le littoral, en face du détroit d'Ormuz. Le Pentagone explique que ces missiles menaçaient directement des navires américains de l'US Navy qui étaient à proximité. Les États-Unis, en tout cas, assurent que ces frappes sont des frappes préventives, des frappes d'autodéfense, c'est le terme employé par le Pentagone, mais que en aucun cas il ne s'agit que ces frappes en aucun cas ne remettent en cause le cessez-le-feu, ne sont pas une violation du cessez-le-feu. La question quand même se pose de savoir si ces escarmouches risquent de faire capoter la discussion, de les remettre en cause. La question a été posée à Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. Il affirme que non, que les discussions se poursuivent et qu'un accord est possible dans les prochains jours. Marco Rubio qui, dans le même temps, explique que le détroit d'Ormuz devra être rouvert d'une façon ou d'une autre, laissant entendre donc la possibilité de recourir à la force pour débloquer le détroit. Et d'ailleurs, justement, on apprend que les Américains, et c'est ce que affirme le Wall Street Journal, ont relancé leur fameux projet Liberté, cette opération qui consiste alors non pas à escorter les navires marchands, les pétroliers, mais à les guider pour sortir du détroit d'Ormuz. Un premier navire a été guidé par les Américains, un navire grec, un super tanker qui a pris ensuite la direction de l'Inde. Et les Américains affirment que dans les prochains jours, ils espèrent faire sortir ainsi une douzaine de bateaux. On rappelle que l'opération Liberté avait été lancée il y a deux semaines environ, que ça avait été un échec. Donald Trump avait mis fin à cette opération au bout de même pas 48 heures. À l'époque, seuls deux ou trois navires avaient réussi à passer.
Alors Antoine Hollard, en direct de Washington pour BFM TV. Il y a une réunion du cabinet de Donald Trump demain à Camp David. Oui. Lieu hautement symbolique pour la paix au Proche-Orient. Ulysse Gosset, est-ce qu'il faut y voir peut-être un bon présage demain ou pas?
D'abord, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'usage de la force. Et c'est une façon pour Donald Trump de réaffirmer qu'il est prêt à négocier, mais que à la moindre anicroche, il va riposter et il est capable de le refaire. C'est pas le premier président américain à agir ainsi, hein, d'autres l'ont fait avant lui, mais la différence avec Trump, c'est qu'il agit rapidement, de façon parfois surprenante, et donc c'est un message adressé très clairement aux Iraniens.
Alors la réunion... Avec la réplique iranienne, c'est un drone américain qui a été abattu.
Alors c'est un drone, effectivement, c'est important, parce que effectivement, ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu leur capacité, de destruction d'un certain nombre de matériel... d'aéronefs, de drones ou autres américains, c'est une mise en garde aussi de ce côté-là. Mais il n'empêche que la supériorité américaine est telle que les Iraniens ne peuvent pas vraiment faire la différence, sauf à agir comme ils l'ont fait au début de la guerre, c'est-à-dire une stratégie asymétrique du faible au fort qui peut non pas frapper l'Amérique elle-même, mais l'ensemble de la région. Donc là, on a effectivement un message très clair envoyé par Trump, en période de négociation. On a des messages très clairs également des Iraniens. On est toujours dans ce bras de fer qui, aujourd'hui, est un peu plus tendu qu'hier et peut-être un peu moins que demain. Alors, la réunion de Camp David, si vous voulez, elle tient finalement à une chose. Est-ce qu'il va y avoir un accord, en particulier sur quelque chose qui préoccupe vraiment les Iraniens, c'est-à-dire les milliards de dollars qui sont gelés en vertu des sanctions? Est-ce que Trump va donner son feu vert pour qu'il puisse les récupérer? C'est tout l'objet de la négociation qui se poursuit d'ailleurs en ce moment même au Qatar, où se trouve le président du Parlement iranien. Ça discute d'argent, ça discute de lever des sanctions. Et de l'autre côté, évidemment, il y a la contrepartie du nucléaire qui, pour Trump, est la plus importante.
Alors, Donald Trump, c'est vrai que chaque jour, c'est le chaud et le froid. Donc, hier, c'était la paix. Aujourd'hui, on commande de nouvelles frappes. qui a priori ne devrait pas remettre en cause néanmoins ce processus de négociation, mais qui peut retarder ce processus en tout cas.
Je pense qu'il faut rester prudent sur les fameuses frappes. On est toujours dans cette histoire de strike and talk, où à la fois on a la volonté de négocier et d'arriver le plus rapidement à un accord pour que Donald Trump puisse effectivement se retirer la tête haute, ou en tout cas pas trop basse de cette histoire qui dure depuis maintenant 3 mois. Et puis en même temps, on menace toujours pour essayer de tenir le rapport de force le moins au désavantage des Américains, ce qui n'est évidemment pas forcément évident en ce moment, tant on a l'impression que les Iraniens sont les maîtres des horloges et qu'ils ont évidemment entre leurs mains des assurances-vie extrêmement importantes. Alors Camp David présage ou pas, les dernières grandes négociations de Camp David, on s'en souvient en 1999 si je ne m'abuse, entre Ehud Barak à l'époque, premier ministre israélien, et puis Yasser Arafat, avaient plutôt mal fini.
Ah, malheureusement.
On avait enchaîné sur la seconde intifada très peu de temps après. Donc je dirais que à ce stade-là, moi je resterais prudent sur cette histoire de frappe, mais que l'essentiel, quelque part, quand on nous dit qu'il y a 95% qui est discuté, bon, évidemment, le nucléaire est un peu de côté. Maintenant, la question du gel des avoirs, elle est fondamentale et on a, je crois, à peu près tous compris que la priorité pour Trump, c'est de signer un accord rapide et que si le nucléaire gardé pour les Iraniens, le nucléaire restera pour les Iraniens, oui, la priorité est la réouverture du détroit.
Vous savez très bien qu'il y a une pression aux États-Unis de l'aile droite de Donald Trump qui commence à dire, attendez, il ne faut pas non plus signer un accord trop favorable aux Iraniens. Ça serait du tout ça pour ça.
Oui, on est
d'accord. Donc j'imagine que Donald Trump doit tenir compte de ces critiques.
Alors, on a une grosse partie de l'électorat MAGA qui, je crois, est encore largement derrière Donald Trump, qui était contre une intervention, mais qui maintenant, dans le contexte de la guerre, serait pour une guerre qui aille jusqu'au bout. Mais une guerre qui aille jusqu'au bout, c'est comme cette histoire de paix. Qu'est-ce que c'est que la paix dans les conflits d'aujourd'hui? Une guerre qui aille jusqu'au bout, théoriquement, si j'ai bien compris, quand on était le 28 février, entre les 4 jours et puis les 4 semaines, c'était l'effondrement du régime islamique. On n'en parle plus, effectivement, aujourd'hui. Je crois qu'on peut faire, à ce stade-là, une croix sur ce dossier et que, du coup, la négociation, elle se fait déjà avec évidemment la majorité de ces Américains dont vous parlez qui ne veulent plus entendre parler de ces Iraniens. Or, Trump, lui, ce qu'il veut, c'est sortir de ce truc. Donc, ça veut dire signer un accord. Signer un accord, c'est avec la partie qui est en présence. Qui est en présence? La République islamique.
Non, mais ce qu'on peut ajouter simplement, c'est qu'il ne faut pas imaginer qu'il y aura une rencontre à Camp David. Trump y va, mais ça veut pas dire. Ben oui, mais pour que ça ait cette symbolique-là, il faudrait qu'il y ait. On est deux quand on lance le tango, n'est-ce pas? Donc, si Trump est à Camp David, ça ne veut pas dire que des émissaires iraniens vont venir le rencontrer. On n'en est pas là, on en est même très loin. Rappelons quand même que quand on parle négociation, on parle de la négociation d'un mémorandum et pas d'un accord lui-même.
Non.
Prudence.
Mais pourquoi est-ce que les Iraniens signeraient là? Pourquoi est-ce que finalement ils seraient OK pour à poser leur signature sur un préaccord avec Donald Trump?
Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'un accord. Il faut bien se rendre compte ici de ce dont on parle. On parle d'un MOU, d'un Memorandum of Understanding, ou en bon français, un mémorandum d'entente. C'est-à-dire, ce n'est pas un accord qui est contraignant, ce n'est pas un accord qui oblige telle ou telle partie à telle ou telle chose. Ça n'oblige que à, en fait, discuter. C'est-à-dire, un MOU, ça sert à dire, on va poser un certain nombre de sujets qui sont des sujets prioritaires, et on va se donner un certain temps pour arriver à un accord potentiel. Là, ici, c'était 60 jours.
Et ce temps, il joue en faveur de l'Iran, de toute façon.
Donc, ce temps, il joue en défaveur des deux parties. Ça, c'est sûr. Les deux parties ont leurs propres enjeux de pression. Mais effectivement, on peut dire aujourd'hui que l'Iran a peut-être un petit peu plus de temps devant lui que Donald Trump, parce que de fait, côté iranien, il y a, alors je vais pas utiliser le terme de résilience, parce que c'est pas vraiment une résilience en tant que telle, mais en tout cas, il y a une habitude de fonctionner sous sanctions, il y a une habitude de fonctionner dans une difficulté opérationnelle d'approvisionnement, etc., qui font que fondamentalement, même si le coût économique pour l'Iran du contre-blocus américain est insupportable, il n'empêche que il y a des manières de fonctionner toujours. Alors de l'autre côté, côté Trump, les pressions sont en train de se démultiplier, y compris dans sa base qui donc est en train de se diviser en deux. Et de fait, l'enjeu pour Donald Trump aujourd'hui, c'est d'essayer de reprendre la main, quitte à passer par la force.
Mais justement, il faut voir à chaque fois la carte du conflit. Vous avez le conflit Iran-États-Unis et puis vous avez le conflit entre Israël et le Liban, plutôt entre Israël et le Hezbollah. On va retrouver Marie Roux en direct de Tel Aviv pour BFM TV, parce que côté israélien, pas question de lâcher l'affaire. On continue d'avancer et on continue d'être très offensif militairement contre le Hezbollah et le sud Liban.
Oui, malgré les appels à la désescalade, Benjamin Netanyahou le répète, il faut écraser le Hezbollah. Et c'est dans ce contexte qu'une nouvelle réunion de sécurité s'est tenue cet après-midi à Tel Aviv au ministère de la Défense avec Israël Katz, le ministre de la Défense, mais également le chef d'état-major des armées. Car sur le terrain, Israël a clairement intensifié ses frappes au cours des dernières heures. Elles sont quasi continues. Plusieurs localités du sud Liban ont été visées, notamment la ville de Natabieh, ville d'environ 75 000 habitants avant le début du conflit, devenue quasi déserte. Dans le même temps de ça, l'appel ses réservistes à venir sur le front pour renforcer ses effectifs, notamment à la frontière libanaise. Et puis sur le plan politique, là aussi la pression s'intensifie. Cette fois, c'est le ministre des Finances israélien qui a évoqué la possibilité de frapper plusieurs bâtiments à Beyrouth en réponse aux attaques de drones du Hezbollah, car l'État hébreu n'arrive pas à empêcher le Hezbollah d'envoyer des drones. D'ailleurs, plusieurs projectiles et drones ont été tirés depuis le Liban aujourd'hui et ont visé le territoire israélien. Et dans ce contexte d'escalade, les discussions se poursuivent toujours entre Washington et Téhéran, mais ici, eh bien, on croit de moins en moins au cessez-le-feu.
Voilà, Marie Roux en direct de Tel Aviv pour BFM TV avec Olivier Saint-Paul.
Officiellement, il y a toujours un cessez-le-feu au Liban, hein. A priori,
oui, il y avait un cessez-le-feu.
Il est violé, mais officiellement, il est sans doute, il est toujours en place.
C'est bien pour ça que je dis à chaque fois les termes de cessez-le-feu, de guerre, de paix aujourd'hui ne veulent plus rien dire. Oui. Il y avait aussi un cessez-le-feu à Gaza, mais ça n'empêchait pas effectivement Israël de continuer cette stratégie qui était la stratégie d'éradication du Hamas. On voit bien d'ailleurs depuis quelques semaines la véritable dichotomie des stratégies américaines et israéliennes. Ce qui est clair et net, c'est que je pense que Donald Trump, quelque part, fait le deuil qu'il n'arrivera pas à faire effondrer le régime iranien. Ce qui n'est pas le cas d'Israël et en l'occurrence de Benjamin Netanyahou, qui croit dur comme fer, en tout cas, qui pense pouvoir arriver à un moment ou un autre au bout de la menace, celle du Hamas et celle du Hezbollah. On voit évidemment à quel point
ce sont des menaces directes,
c'est compliqué. Ce sont effectivement des groupements
Israël,
qui menacent directement l'État hébreu. Donc Benjamin Netanyahou considère évidemment qu'il en est de la sécurité même de l'État d'Israël, d'essayer de venir à bout de ça. Évidemment, Israël est corps et âme engagé au milieu de ce conflit par sa géographie, ce qui n'est évidemment pas le cas des Américains.
Et puis on a ce chiffre du jour là qui concerne le détroit d'Ormuz. C'est un chiffre qui est donné par le commandement militaire américain de 108 navires redirigés par la marine US. 108 sur combien? Et ça veut dire quoi rediriger?
Donc,
et quels sont ces navires?
Donc lors du point du 23 mai, le CENTCOM, donc le commandement central, donc c'est-à-dire régional ici qui nous implique des États-Unis, avait dit avoir repoussé au total ou gérer 130 navires. Sur ces 130 navires, il disait d'avoir désarmé 4 navires. Désarmé, c'est-à-dire tout simplement les avoir empêchés de fonctionner ou de repartir. Il y en a 100 qu'ils avaient repoussés, tout simplement, et qui donc sont repartis vers le détroit d'Ormuz et qui se sont positionnés soit dans des grappes de navires côté iranien, soit dans des grappes de navires au centre du golfe de Oman. Et puis, 26 navires qui était passé au titre de l'aide humanitaire. Et donc ça, c'était au point du 23 mai. Et donc le CENTCOM, avec le point d'aujourd'hui, avec ses 108 navires, donc on comprend qu'il y a 8 navires de plus qui ont été repoussés. On n'a pas le détail sur les autres navires qui sont passés ou pas. Donc ça vous donne un ordre de grandeur ici, c'est-à-dire que les États-Unis ont repoussé grosso modo 77-78% des navires qui ont essayé à un moment donné de passer ce contre-blocus américain. Mais attention, ce que le CENTCOM ne dit pas, ce sur quoi il ne commente jamais depuis le début du cessez-le-feu et de cette opération-là, c'est quels sont les navires qui passent malgré tout. Et on sait, de manière vérifiée, qu'il y a au moins une dizaine de navires qui sont passés.
Merci à tous d'avoir fait le point sur ce conflit qui en est, je vous le rappelle, cette guerre au 88e jour.